News FM.
News FM à Grenoble, numéro 1 sur le hip hop, groove, funk.
Monte le son.
Bonsoir les amis, à ma montre cassée, il devrait être 20h. Je suis très heureux de vous retrouver pour Open By sur News FM. Open By, votre émission qui vous permet de répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Mathilde est avec nous. Salut Mathilde.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Quoi de beau dans ton instant narration? Et oui, ça va très bien, je te remercie.
Là, on va un petit peu partir de l'autre côté de la planète, on va dire ça comme ça. Le 21e siècle, c'est un peu un siècle où on développe tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et là, ça commence à se démocratiser, mais dans le milieu éducatif, en fait. Du coup, je vais illustrer tout ça.
Intéressant. Ça a l'air un peu compliqué, mais
je suis sûr que ça va être très simple, tu vois.
Alors, cette semaine, alors d'habitude, je fais une rubrique qui s'appelle l'Instant Éloge, qui parle de l'actualité des médias. Et au début, je voulais faire une rubrique sur les droits du foot. Mais comme c'est encore plus le bordel que les cheveux de notre invité, j'ai laissé tomber. Et justement, notre invité, nous l'avons reçu lors de son passage à Grenoble le 20 décembre dernier, où il passait roder son troisième spectacle. Derrière son apparence de métalleux assez dur qui vous incite à tuer vos parents, à venir voir son spectacle où il vous bute, et les lutins du Père Noël se pendront dans l'atelier. Bref, pour ceux qui le connaissent bien, en réalité nous recevons ce soir un vrai gentil. Il aime observer le monde qui l'entoure, il joue les touches à tout de génie, mais c'est difficile de résumer tout ce qu'il fait en une heure. Pourtant, on va essayer. Dedo est l'invité exceptionnel d'Open By sur News FM. Salut Dedo.
Salut.
Comment ça va?
Écoute bien, 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 bien. C'est un très long portrait et c'est parfait.
Merci beaucoup d'avoir réussi à venir à Grenoble malgré les grèves.
Ouais, c'était important pour moi de comme tu l'as dit, je suis en rodage du troisième spectacle, donc c'est important pour moi de jouer énormément pour tester le matériel du troisième actuellement. Et c'est une galère, hein. C'est pas simple de vraiment pouvoir se déplacer n'importe où, mais bon.
Ouais, d'ailleurs tu nous viens de Lyon là, d'ailleurs où t'as passé ta semaine.
Ouais. J'ai fait Lille, Lyon et ensuite Grenoble. Et je pense ensuite que j'aimerais rentrer chez moi avant les prochaines élections présidentielles, mais j'y crois pas trop.
Bon, t'as fait quoi de beau sur Lyon? Alors, je précise que la question m'a été soufflée.
J'ai fait quoi de beau sur Lyon? Au fait, à la base, j'ai joué. Faut que je reparte. Le samedi 7 décembre, j'étais avec mon projet musical.
Les Princesses Leia, dont on vient d'entendre un petit extrait.
Exactement. Putain, qu'est-ce que c'est bien foutu comme émission. Le conducteur est fabuleux. Et on était au Radiant, qui est une très belle salle à Caluire, juste en banlieue de Lyon. Et on a joué avec No One Is Innocent et Ultra Vomit en triple plateau. Donc on a eu la chance de partager la scène avec eux et de jouer devant 2500 personnes. Ça s'est très bien passé. On était très contents. Et c'était la dernière de l'année pour les Princesses Leia. On repart sur des dates l'année prochaine. Mais c'était bien pour conclure l'année.
Ouais.
Voilà, c'était, par exemple, c'est mieux que Mulhouse.
C'est autre chose.
J'aime bien Mulhouse, hein, mais c'est vrai que quand on a joué à Mulhouse, c'était les toutes premières et il n'y avait pas grand monde.
Et du coup, là, après le spectacle, donc, t'es parti à Lille, t'es revenu sur Lyon. Et ça fait quoi sur Lyon?
Sur Lyon, j'ai traîné un peu, j'ai vu des potes, je me suis baladé par Mons et par Vaux, voilà, tout ça.
Tranquillement.
Ouais, bien.
Très
bien. Lyon, c'est joli. Tu connais Lyon?
Bah, évidemment, je connais. Mathilde, tu connais Lyon, toi?
Oui, je connais. Bon, je ne suis pas passé beaucoup de fois dans ma vie, mais oui, je connais.
On connaît, ouais. C'est des villes où on a visité, on a pu y passer, faire des stages, des trucs comme ça. Voilà.
Ah, les stages.
Stages. On en reparlera des stages. Enfin, non, on n'en reparlera pas.
Jamais. On n'en reparle plus jamais dans l'histoire de l'humanité.
Alors, Dedo, pour mieux te connaître, au-delà de l'image que certains peuvent avoir de toi en apparence, on entend déjà que t'es super sympa.
Ouais.
Alors, pour. Je refais ma phrase.
J'ai raté. Ah, tu fais du point de montage, c'est nul.
Évidemment.
Garde tout. Garde le naturel, si ça merde, ça merde.
Eh ben écoute, on gardera ça alors. Pour mieux te connaître, on te propose avec Mathilde un portrait chinois.
Est-ce que tu connais le concept un peu?
Oui.
Du portrait chinois,
ouais. Je connais le concept, je connais le film, je connais les portraits et j'aime bien manger chinois. Donc vraiment, je suis complètement...
Donc tout va bien.
Dans l'intitulé.
Alors, si tu étais une ville?
Si j'étais une ville, je serais Rome, certainement, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents italiens qui viennent tous les deux de Rome. Mm-hmm. Et donc, mes profondes racines et mon éducation s'est faite à travers le biais de l'Italie. C'est une ville aussi que j'adore parce que, bah voilà, C'est une sorte de berceau des civilisations, un peu comme peut-être certaines villes de Grèce aussi. Mm-hmm. Et on mange très bien. Et tout est beau. Et les gens s'énervent comme il faut. C'est-à-dire, en France, on est beaucoup à râler, pas être content pour tout et pour rien. Là-bas, c'est autre chose. C'est plus volubile, c'est plus latin. On sent que ça redescend très vite. Il y a moins de morosité. L'Italie, c'est génial.
Eh ben, c'est beau comme réponse. Si tu étais un livre.
Ah, c'est pas simple. Je serais certainement un livre de Chuck Palahniuk, je pense, qui est l'auteur de Fight Club, entre autres. Mm-hmm. Et je serais certainement Fight Club ou peut-être Survivant. Survivant, qui est un de ses livres aussi, où c'est un journal de bord tenu par quelqu'un qui s'est échappé d'une secte. Il se passe énormément de choses à l'intérieur. Il est dans un avion qui va s'écraser à tout moment et on part en flashback. C'est très bien construit. Palahniuk est un auteur contemporain qui a une très bonne plume. Qui aborde des sujets de manière très frontale et dérangeant pour certains. Mm-hmm. Et voilà, c'est un auteur qu'on connaît peu, même s'il a fait des livres, en particulier Fight Club qui a été adapté au cinéma et qui a bien marché. Il a fait un autre livre qui s'appelle Choke, qui a eu un succès moindre. Voilà, donc c'est un auteur que j'aime bien.
Si tu étais un personnage de fiction.
Ah là là, je serais Snake Plissken, je pense. Snake Plissken, qui est le héros de New York 97 ou Los Angeles 2013, qui sont deux films de John Carpenter, qui est une sorte de malfrat marginal qui se retrouve malgré lui enrôlé par le président des États-Unis pour aller faire une mission dont il a absolument rien à foutre. Mais comme on lui fait croire qu'on lui a inoculé un virus et que la seule façon d'avoir l'antidote, c'est d'accomplir cette mission, il s'y soustrait, mais à sa manière. Voilà, c'est un perso qui a inspiré aussi le personnage de Snake dans Metal Gear Solid, entre autres. Mm-hmm. Tout en noir avec un bandeau, sorte de pirate. Kurt Russell, qui est un de mes acteurs préférés, qui est une sorte de papa que je n'ai jamais eu.
si tu avais plutôt un super pouvoir.
Voilà, c'est ça, les super pouvoirs, c'est toujours compliqué. Hein. Je pense que j'aimerais bien me balader dans le temps. Parce que ça te permet de balancer des uchronies, de changer les choses en moins bien ou en complètement pire, parce que tu sais que tu peux remonter dans le temps et rechanger.
Ouais.
Je pense que je passerai mon temps à essayer d'arranger les choses et foutre la merde de la même manière, en équilibre. Et à la fin, la dernière fois, je sais pas encore ce que je choisis. Je sais pas, on va voir.
Si tu étais un dessert.
Bon, j'ai déjà parlé de l'Italie, donc un tiramisu, c'est un peu trop évident. Écoute, j'aime beaucoup la mousse au chocolat. J'en ai bouffé une hier soir qui était très bonne encore, justement, à la salle. Là. Je salue le cuisinier qui l'a très bien exécuté.
On embrasse la basse-course.
La
basse-cour. Pourquoi la musique s'arrête maintenant?
Qu'on a voulu mettre en exergue le fait que t'as bafouillé.
Mais c'est une émission où je ne fais que bafouiller.
C'est une émission qui veut t'humilier, c'est pas très gentil. Mais ça, c'est typique des grenoblois, hein. Vous êtes vraiment bizarre. Hein.
Allez Mathilde, propose un autre portrait chinois, s'il te plaît.
Si tu étais une émotion.
Une émotion? Oh, c'est pas simple. Le rire, certainement, parce que c'est quand même le plus agréable. C'est agréable
ça, c'est communicatif, quoi.
Ouais, puis c'est agréable de le provoquer, c'est agréable de l'avoir. Tu peux rire dans beaucoup de situations. Tu peux rire parce que c'est marrant. Tu peux rire même si c'est triste et avoir des larmes en même temps. C'est bien, c'est complexe. J'aime bien manier ça.
C'est un peu universel, en fait.
Ouais, c'est une communication totale. C'est un peu comme le sourire, qui est quelque chose de totalement, anthropologiquement parlant, investi partout dans le monde. Tu souris à quelqu'un, il va te sourire, quelle que soit sa nationalité, sa tribu ou autre. Le rire, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même parfois se comprendre en termes de langue. Ouais. Mais c'est la même dynamique, donc c'est quelque chose qui mange.
Si tu étais une mauvaise habitude.
Être en retard, parce que c'est ma vie. C'est ma vie, hey, et tout le monde le sait. Autour de moi, je suis très connu à cause de ça, malheureusement.
Je confirme que tu es très connu à cause de ça.
Ah bah tu vois, les gens communiquent, mais ça vraiment, les gens sont malveillants.
Surtout à Grenoble, tu vas voir.
Ah bah oui, j'imagine. Donc ouais, être en retard. Mais c'est parce que j'ai toujours l'impression que je vais être à l'heure. Vraiment, je me dis, mais non, mais c'est bon, je vais être à l'heure. Là, j'ai le temps, quoi. Il est midi 10, j'ai rendez-vous à midi 40, j'ai le temps. Et à 35, je me dis, ah, faut que je me dépêche, voilà.
Ah oui, genre tu attends pendant...
Je me rends pas compte, c'est un problème de temps, de gestion du temps. Je pense que j'ai un dérèglement de la gestion du temps. Je n'ai pas l'adjectif qui va avec ce dénominatif, mais en tout cas c'est ça que j'ai.
Mathilde, on en fait un dernier.
Tu vas le faire parce que c'est ton préféré.
Si t'étais un gros mot.
Si t'étais... Ah, fils de pute, je pense. Mais c'est un peu long.
Ah, mais je pensais qu'il avait dit...
C'est un peu long, une insulte, mais après un autre gros mot...
Ou une insulte, oui, ça marche aussi.
Bah, fils de pute, j'aime... Parce que c'est la sonorité qui est jolie. Fils de pute, je trouve qu'il y a un truc à la fois fluide et malgré tout un tout petit peu attaquant. Et pas du tout, pas du tout stigmatisant pour les prostituées que dont je n'ai aucun souci avec, pour en avoir côtoyé beaucoup, en termes d'amitié. Ne commencez pas à faire des raccourcis. Et quand bien même, si ça avait été le cas, qui êtes-vous pour me juger ?
Tu as le droit de côtoyer qui tu veux, Dédé, tu es libre.
Ah, mais j'ai énormément de gens autour de moi qui ont participé à différents métiers étranges.
Étranges,
ouais, en tout cas hors normes. Mais c'est des gens très agréables la plupart du temps.
Et parmi ces gens étranges et très agréables, tu en fais partie puisque tu es un humoriste, Dédé.
Oui, c'est vrai, entre autres.
Et que tu étais en rodage à Grenoble ces derniers, le 19, 20 et 21 décembre. Transition astucieuse pour finir le portrait chinois et passer à ton actualité.
Ouais.
Alors, je suis allé te voir. J'ai adoré ce que tu as fait. Je pense que la salle a adoré aussi.
D'accord.
Alors, comme ça, Grenoble est tout le temps en travaux.
Ah bah oui. Bah, si tu habites à Grenoble, tu le sais, il n'y a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. J'ai des souvenirs de ça, même quand... La première fois que j'ai dû venir, je pense que c'était je sais plus quel était ce plateau. Si ça devait être le Campus Comedy Club, qui était un plateau qui était où la base c'était certains artistes en fait allaient dans les campus dans pas mal de villes de France et on avait joué dans le campus de Grenoble qui est pas très loin de la gare, je crois.
Mais oui, ouais.
Rempli 800 personnes, tout un bordel et tout. Très très bonne expérience. Mais la gare n'était pas une gare, c'était. C'était vraiment des plots de travaux partout, des barrières en fer. Et c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une ville témoin. J'ai l'impression que vraiment vous êtes là. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire pour que les gens soient heureux de traverser la route. Et vraiment, il n'y a que ça partout, quoi. Votre mère a l'air d'avoir une obsession des travaux très psychanalytique. Je pense qu'il faudrait qu'il aille consulter.
J'ai dit autre chose dans le spectacle qu'on répétera pas.
Tout à fait.
Mais on embrasse.
Ah oui, mais je l'ai dit hier, oui.
On embrasse Eric Piolle.
Oui, qui doit adorer les Legos.
Bon, du coup, comment ça s'est passé ce rodage alors ? Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Écoute, bien. Ça reste le début, même si c'était ma 7, 8 et 9e date. Ça s'est bien passé parce que ça fait partie justement du processus. J'ai à peu près 35 dates de rodage avant d'attaquer officiellement le spectacle. Je pense que je vais faire peut-être quelques exceptionnels à Paris avant octobre, avant de redémarrer officiellement. Ça va nous monter une quarantaine de dates, je pense. Le but pour moi, c'est d'avoir une heure solide, c'est-à-dire quelque chose à proposer aux gens qui puissent avoir une vraie tenue, qui puissent avoir un vrai squelette logique, même si je vais faire du hors-piste parce que je me connais et que je vais me balader à l'intérieur et que je m'ennuie vite. Donc j'aime bien rajouter des trucs, en changer certains, interagir avec les gens si j'en ai la possibilité. Donc voilà, hier, sur les trois dates, j'ai dû faire à peu près une 15, une 20. Du coup, à partir de là, je commence à avoir des certitudes sur certaines thématiques. Ça avance bien.
Ouais.
C'est encourageant. C'est vraiment le processus de travail continue à un bon rythme. Et j'espère que d'ici octobre, j'arriverai avec quelque chose de costaud.
Et ce qui est assez fou aussi, je trouve, et vraiment pour ça, s'il passe près de chez vous, allez le voir. C'est l'interaction avec le public. On ne sait pas si c'est préparé, on ne sait pas si c'est de l'impro. Et ce qui est fou, c'est le public là, à la basse-cour, donc c'est une petite salle, hein, quoi, 90 personnes, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Et le public répond, on entend les réponses du public, tu rebondis sur le public. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ?
L'interaction, tu veux dire ?
Oh oui.
Ouais, en tout cas, dans le stand-up, moi j'ai fait mes premières auditions à 19 ans, donc ça remonte maintenant, j'en ai eu 41 il n'y a pas longtemps.
Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. Et les Sagittaires en force. Et non, c'est quelque chose. En tout cas, moi j'ai toujours voulu faire de la scène depuis le collège, et le stand-up, ça a été une révélation à travers Richard Pryor. Que j'ai connu à cette époque-là, par le biais d'une VHS.
On en reparlera.
Ok. Je pense que c'est quelque chose que j'aime assez, l'interaction avec les gens. C'est pas quelque chose que je vais forcément chercher à tout prix. Par contre, si j'en ai la possibilité à des moments, j'ouvre des thématiques ou des questions aux gens, et selon ce qui se passe, je me nourris de leurs réponses. Parfois, je trouve du matériel comme ça en improvisant, et sur certaines interactions, il y a des choses qui deviennent partie intégrante du spectacle, parce que ça a tellement été développé que ça devient un truc auquel j'avais pas pensé. Et des fois, tu trouves des choses sur scène. C'est ça qui est agréable justement avec le stand-up, c'est que tu pars en impro, et puis d'un coup, il y a des trucs marrants. Si tu t'enregistres, tu peux réécouter, tu te dis tiens, ça peut être exploité à nouveau. Donc j'aime ça, et puis c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, donc c'est pas non plus c'est pas quelque chose qui me fait souffrir, quoi, bien au contraire. Ouais.
Et t'es comme ça dans la vie ? Je veux dire, c'est le côté un peu vanneur, à rebondir sur ce que les gens disent
Ouais, un peu. Mais je pense que de toute façon, quand t'es un maximum, de mon point de vue, hein, quand t'es sur scène en stand-up, le but c'est d'être le plus proche de ce que t'es dans la vie à 100%, et je pense m'en approcher de plus en plus. Après... Le travail du stand-up, c'est un travail d'une vie. Tu gagnes en expérience à chaque fois que tu joues. Je pense que tu deviens vraiment bon après, je sais pas, peut-être 40 ans de stand-up. Moi, ouais. j'en ai 17, 18 maintenant. J'ai le temps. Je reste un petit adolescent en stand-up.
Voilà. T'as l'âge de stand-up, du coup, 18 ans. Quand t'auras 25 ans, tu seras un peu plus mature. 30 ans de stand-up. Et à 40 ans de stand-up, tu seras un petit vieux.
Tu vois, quand j'aurai 50 ans de stand-up, les gens diront, ah, quand même, il est pas mal. Je dirais, bah oui. J'ai 75 ans. Donc, dépêchez-vous de venir parce que je vais pas en faire beaucoup d'autres, des spectacles, je pense. Mais venez.
Alors, du coup, quand on est ado, comment est-ce qu'on écrit un spectacle comme celui que tu es en train d'ajuster?
Quand on est ado?
Quand on est ado dans le stand-up. Dans le stand-up, évidemment.
En fait, il n'y a pas de j'arrive, je fais un spectacle, après je réécris une heure. J'écris très très régulièrement. Il y a différentes techniques, entre guillemets. Il y en a qui écrivent tous les jours en étant besogneux et en s'imposant des heures d'écriture,
ouais.
Quel que soit le temps extérieur ou les attentats sur leur gueule. Et moi, je ne marche pas là-dedans. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup plus à l'idée du moment. Des fois, tu as des fulgurances, tu les notes très vite sur ton portable. Soit tu les développes parce que tu sens que là, c'est le moment de les développer parce que tu as des idées. Soit tu laisses ça infuser dans un coin, tu reviens après et tu te rends compte que tu as plus d'idées à ce moment-là. Et donc, je fais ça tout le temps, mais pas tous les jours. Mais c'est assez régulier. Donc, en fait, dès que tu as une idée, tu la notes. Une fois que tu stockes... Donc là, j'ai joué mon précédent spectacle Killing Joke pendant 4 ans... Et entre-temps, j'ai revu mes notes pendant 4 ans, voire même des trucs beaucoup plus vieux. Tu fais un tri, tu vois ce qui te fait marrer, tu te mets à tester ça en scène ouverte par moment quand tu peux. Et puis après, quand tu sens que tu as une sorte de lien valable entre les différentes thématiques, tu te dis, allez, on part pour une heure, on va voir ce qui se passe.
D'ailleurs, il paraît que t'es fan des notes sur ton téléphone.
Oh là oui. Mais c'est pas original, je pense que maintenant, c'est aussi... notre génération qui est comme ça, on écrit beaucoup moins avec un stylo sur des cahiers qu'on trimballe partout. Déjà, parce que c'est moins flippant, parce que tu peux te dire, avant on pouvait se dire à tout moment, si je perds tout, j'ai plus rien. C'est ouais. Ma vie est dans ce cahier super conquérant à spirale. Si jamais je le perds, je me suicide en avalant de l'eau.
Alors il faut citer d'autres marques, donc on va citer Clairefontaine et Oxford.
Avec plaisir. Et wow. Oxbow, qui n'a rien à voir, mais c'est une marque comme ça. Du coup, il va être obligé d'en redire deux autres.
Flemme, continue.
Ah, Flemme, très bonne marque. Et donc, c'est un truc que tu trimbales facilement, tu l'as sauvegardé, donc tu sais que t'as pas perdu. Puis, malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, ton smartphone, ça devient ton ami le plus proche en ce moment.
Effectivement. Et tu parles souvent de la société dans ton spectacle, et à un moment, t'expliques que la société est à fleur de peau. Tout le monde est très sensible avec les réseaux sociaux, etc. En tant qu'humoriste, est-ce que t'en tiens compte? Comment est-ce que t'en tiens compte?
De ce facteur-là?
Oui, du facteur que ce que tu dis, si quelque chose que tu peux dire peut être mal interprété, fasse une polémique sur Twitter, etc. etc.
Ah, écoute, en général, je verrouille tout ce que je dis pour ne pas avoir matière à créer polémique avec les gens. Je pars du principe que tu peux parler de n'importe quel thème, quel qu'il soit, même s'il est virulent, même s'il est touchy, même si les gens disent « oulala, tu t'embarques vers quelque chose de compliqué ». Si tu sais de quoi tu parles et que tu maîtrises ton idée et qu'elle n'est pas passible de pénal, tout se passe bien. Tu as le droit d'en parler et tu peux justement même amener les gens à réfléchir un peu plus sur des idées préconçues qu'ils peuvent avoir. Le but du jeu, c'est d'ouvrir le débat, quel qu'il soit. Donc, c'est important de parler de tout. Je pense que c'est important de ne pas se mettre de tabou. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est si tu as envie de parler d'une thématique qui peut être mal interprétée, c'est de la maîtriser et de maîtriser justement ton idée par rapport à ce que tu vas avoir envie d'en dire.
D'accord. Et tu as des sujets où justement tu as envie d'ouvrir le débat?
Je le fais un peu de manière sociétale dans le troisième spectacle. Je l'ai fait régulièrement dans les deux précédents aussi. Mais oui, je pars quand tu disais que je parle du fait que la société est un peu à fleur de peau. J'ai quand même l'impression que on est dans un moment de l'époque qui veut qu'il y a des vexations permanentes sur tout et n'importe quoi parce que les gens se sentent très très touchés par les choses parce que justement. Le fait d'avoir libéré les parents en général, c'est quelque chose de très très bénéfique et ça permet justement à des gens de pouvoir s'exprimer. Mais je pense que beaucoup de gens, quelle que soit leur communauté, du fait qu'ils ont été souvent brimés dans leur façon de s'exprimer, ça sort très très fort, très très énervé. Et je pense qu'on va retrouver, quels que soient les gens qui discutent, quelque chose de médian dans les années à venir. Mais ça va prendre encore 3-4 ans. Pour que tout le monde se parle gentiment. Là, il y a encore beaucoup de rage. C'est logique parce que justement, je pense que ça sort comme une bouche d'incendie parce que c'est resté trop longtemps fermé.
Ouais.
Mais c'est important d'ouvrir le dialogue et c'est important aussi de dire que parfois, les gens se sentent blessé, alors qu'à aucun moment ça a été le cas de la personne qui l'a fait, et que c'est parfois mal interprété, même dans le fait qu'on soit blessé.
D'accord, donc encore quelques années où on va galérer et ensuite ça ira mieux.
Je pense, j'espère en tout cas, je suis quelqu'un d'utopiste.
On l'espère. Alors il y a un autre sujet qui fait très polémique, c'est le foot.
Ouais.
Il paraît que t'es un grand fan de foot italien.
Énorme fan de foot. Foot ouais. En général, foot italien en particulier par la force des choses et encore plus de la squadra. Mais oui. Oui, alors un peu moins maintenant parce que mon club de cœur depuis que j'ai 9-10 ans, le Milan AC, vit une période... très aride en termes de le dernier titre remonte à 2011 maintenant, à l'époque où Ibra était encore chez nous. Mais bon, ça revient. Et je continue d'aimer ça. Je me passionne un petit peu plus maintenant des compétitions internationales comme l'Euro ou la Coupe du Monde, parce que j'ai moins le temps de suivre aussi les clubs avec le taf au bout d'un moment. Et qu'encore une fois, quand ton club de cœur n'est pas au sommet, tu regardes ça d'un œil distant. Tu es là, tu dis ouais, bon, ça a l'air super. Alors, le foot, c'est pas si bien.
Allez, pour te faire plaisir, on va écouter ça. Tu peux chanter, hein.
Alors, je chante dans mon cœur déjà. Pour info, c'est l'hymne du Milan AC. Et j'ai une cafetière Milan AC. Quand le café est prêt, cet hymne retentit. C'est mon niveau de fanatisme de ce club.
Ça existe ?
Oui, ça existe.
Ah, je pensais pas.
Oh là là, c'est pour les supporters, ils font tout et n'importe quoi. Alors, on me l'a offerte, hein. Je suis pas allé jusqu'à me l'acheter moi-même, mais j'ai adoré ce cadeau par contre.
Ah bah ouais, c'est sûr.
Surtout que ça a dû coûter 8000 euros, mais 8000 euros sagement dépensés.
Bah bien sûr, attends, si t'écoutes l'hymne de ton cœur tous les jours, t'es content de ces 8000 balles.
D'ailleurs, à quel point est-ce que t'es fan de foot ? On m'a demandé de te poser une question. Si je te dis que tu vas faire l'Olympia à guichet fermé pendant une semaine, que tu vas jouer au cinéma le rôle de tes rêves, mais qu'en contrepartie, la Squadra Azzurra, l'équipe de football italienne, perd toutes ses étoiles. Elle n'a plus aucune Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu choisis ?
Les quatre ?
Les quatre.
Silence. Attends, Olympia,
Olympia...
T'as le rôle de ta vie au cinéma ?
Le rôle de ta vie au cinéma, ouais.
Et on peut gagner encore des Coupes du Monde ou pas après ?
On peut en regagner.
C'est une vraie question de sa vie.
Non, mais
là,
parce que là, je réfléchis pour de vrai. Là, c'est pas un silence. C'est un vrai. Non, je crois que je vais prendre le rôle au cinéma quand même et l'Olympia et tout ça.
Et s'ils en gagnent plus ? Si l'Italie ne peut plus gagner ?
Non, mais non, ça fait trop de contraintes. C'est pas. J'aime pas du tout ce jeu. Ce jeu est nul.
C'est pas fair play.
Écoute, chante, t'hésites encore. Alors, on va te laisser réfléchir et on va te laisser écouter une chanson. Alors, nous a-t-on dit que c'était la bonne chanson ? On va écouter un super groupe de heavy metal qui s'appelle Down et un titre qui s'appelle On March the Saints.
Très bon choix.
Oui. Alors on écoute.
We'll be right back.
Vous écoutez toujours Open By sur News FM. Vous pouvez nous suivre sur le 101.2 FM sur Grenoble et dans le monde entier sur Internet et en podcast. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à notre Instagram @openby pour suivre notre actualité. Nous sommes toujours avec Dedo qui était de passage à Grenoble à l'occasion du rodage de son troisième spectacle. Nous venons d'écouter Down, On March the Saints, un titre choisi par Dedo, officieusement. Pourquoi ce choix ?
Là, officiellement, là, pour le coup. Ça, on me l'a demandé, c'était le bon titre. Pourquoi ce choix ? Parce que déjà, le chanteur de ce groupe, Down, qui est un des nombreux groupes de Phil Anselmo, qui est le chanteur de Pantera, et mon groupe préféré en métal, Pantera. Donc déjà, ça a été un choix logique pour moi. On March the Saints est un morceau que j'aime beaucoup. Down, surtout à cette période-là, la période Nola était... Enfin non, là c'est le troisième album. Bref, on s'en fout. Donc, voilà, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Et il y a eu une période où je sortais. C'était ma musique de sortie du premier spectacle, très régulièrement. Donc voilà, j'aimais bien l'entendre régulièrement. Et du coup, ça me ramène à des souvenirs intéressants.
Des souvenirs intéressants de ton premier spectacle.
Ouais.
Et depuis, tu as continué dans le métal, puisque tu as créé avec Antoine Chomsky les Princesses Leia.
Ouais, tout à fait.
Comédie musicale métal, une histoire qui s'adresse aux amoureux du métal, mais aussi... Là, je cite le résumé. Excusez-moi, je suis en train de décéder. Au réfractaire des sons, ça durait.
On va pas finir l'émission, on est désolé. On est très content en tout cas.
Prends un peu d'eau, Pierre. Prends de
l'eau. Bon, on écoute une cover Makeba de Jane que vous avez faite.
Oui,
Princesse Leia, Dedo.
Oui. Tu l'as déjà dit deux fois.
Mais une fois, les micros n'étaient pas ouverts totalement, je crois.
Donc, Princesse Leia, tu veux que j'en parle ?
Oui, raconte-moi déjà le nom. D'où vient ce nom ?
Oh, le nom... faisons la genèse du projet. À la base, Antoine Chomsky, qui est un pote avec qui on... comédien, avec qui on a aussi collaboré sur certains projets, entre autres Les Insolents, une troupe à laquelle on a participé avec Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Émeric Lompré, Bruno Hossler. Voilà, on s'était vraiment un peu plus connu là vu qu'on a beaucoup tourné avec ce projet et ça faisait longtemps qu'il avait envie de monter un projet autour de la musique et il m'en a parlé et voilà, moi j'étais là ouais c'est cool, faudrait voir. Il savait que je chantais un peu, je lui avais dit que voilà, il y a un truc qui s'appelle les karaokés à Paris qui est une sorte de qui se passe au Bus Palladium. En fait, tu fais un karaoké mais avec un groupe derrière toi vraiment et donc tu joues en live avec un groupe. Donc c'est assez cool à faire. Voilà, j'avais fait du Aerosmith et deux trois trucs. Et puis du coup, on s'est dit, bah viens, pour une soirée, essayons de faire quelque chose. Et en fait, Yacine Bellous, mon compagnon de fortune depuis 15 ans maintenant, qui est comédien aussi et stand-upper, avec qui on a fait beaucoup de choses, a créé une soirée parisienne qui s'appelle, enfin en tout cas qui se passe à Paris pour l'instant, hein, on espère qu'elle ira ailleurs, première fois, dont le principe est de jouer pour la première fois soit une chanson, un morceau de musique, ou un passage de stand-up. Donc nous, on a décidé de faire pour la première fois une dizaine de minutes autour de ce groupe fictif qu'on a inventé et qui donc devient une sorte de petite attraction à travers l'espace scénique qu'on lui a donné à ce moment-là. Donc ça a très bien marché, les gens étaient hyper contents, ils ont tellement trouvé ça cool qu'ils ont dit « faites quelque chose avec, ah, attends, faut pas faire que 10 minutes, faut pas faire que 10 minutes ». Et du coup on a fait un spectacle entier autour de ça finalement, donc il y a à la fois un vrai concert live, je suis au chant, Antoine est à la guitare, on a une bassiste, Cléo Bigontina et un batteur, Xavier Goduel, donc c'est une vraie formation de concert live. Et à la fois, c'est aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc, on suit un peu le parcours du groupe, vers quoi il veut aller, à travers des flashbacks, des flash-forward. Donc, c'est très hybride, mais ça fonctionne bien, les gens sont contents. C'est un projet qui a un peu plus d'un an, maintenant un an et demi. On a eu l'occasion de faire beaucoup de choses, dont une quinzaine de dates au Warm Up Hellfest. Voilà, ça suit son bonhomme de chemin, c'est très intéressant pour nous et on kiffe.
Et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est très hybride, tu le disais. Et typiquement, la version métal de Makeba qu'on a entendu tout à l'heure côtoie une chanson plus tranquille, en apparence, sur la vieillesse.
La vieillesse, la vieillesse,
c'est pas vraiment sympathique.
La vieillesse, la vieillesse,
oui mais y'a des côtés pratiques.
Alzheimer, Alzheimer,
tu te souviens de rien. Tu cries à la Wakbar alors que t'es chrétien. Si tu veux faire pipi, plus besoin de toilette. Tu peux faire sur toi, c'est une excuse très chouette.
La
Comment vous les avez écrites, ces chansons?
La plupart des paroles, c'est moi qui les ai écrites. La composition musicale, c'est Antoine. Donc voilà, on a beaucoup collaboré par rapport à ça. On se donnait des idées après, hein, s'il y en a qui parfois ont des idées de paroles, moi qui ai des idées de musique. On collabore à quatre en fait principalement, mais c'est vrai que les textes des chansons, c'est beaucoup moi.
Ouais.
La plupart des compositions musicales, c'est Antoine. Ouais.
Ok, ouais, non, c'est assez marrant là. On n'a pas mis la partie où il y a une partie où ça va un peu plus loin encore, mais on n'a pas tout mis, on laissera les auditeurs découvrir ça. Le projet, c'est quel est votre public sur ce projet-là?
Eh ben écoute, c'est agréable parce qu'il est très divers et varié.
Ouais.
C'est ce qu'on voulait depuis le départ, c'est le but du spectacle et c'est même ce que raconte quelque part l'histoire du groupe quand on joue le spectacle. C'est qu'on voulait pas du tout segmenter, au contraire fédérer les gens. Donc on s'est rendu compte au fil des représentations que ça marchait bien avec les métalleux et ça marchait aussi bien avec les non-métalleux.
Ouais.
Dans le sens où y a aussi de la comédie, donc il y a des passages marrants, il y a de la théâtralisation, il y a des vannes. Et puis dans les compos qu'on fait, il n'y a pas que des trucs hardcore, bien au contraire. On fait une cover de Dirty Dancing très très stupide. C'est très festif. Ça marche très bien sur les gars aux cheveux longs parce qu'on aime ce genre de son et la déconne.
Ouais.
Et ceux qui sont justement un peu plus en « Ouh là là, nous on n'aime pas quand ça fait du bruit », bah ça fait suffisamment pas de bruit pour eux pour que ça soit cool. Donc le niveau de bruit est vraiment cool pour tout le monde, ce qui fait que nous on est contents.
Donc ça plaît à tout le monde, donc
tout à fait.
Tout le monde peut aller le voir.
Oui, d'ailleurs on a des petits, on a des petits de 7-8 ans qui ont été très fans, qui reviennent régulièrement avec le parent.
Les parents, attention, sont pas toutes. Il y a des choses à expliquer aux parents.
Si, écoute, voir des petits et des parents chanter à l'unisson, tu tes parents, moi je trouve ça. On rassemble les générations. Non, c'est
oui, parce que les parents aussi ont envie de tuer leurs grands-parents.
Évidemment,
grands-parents,
parce que c'est ancestral comme envie.
C'est générationnel, absolument. Alors, on va passer à autre chose, au sujet d'actualité qui t'a intéressé, qui, j'en suis sûr, te passionne, puisque c'est ton producteur qui nous l'a dit, c'est le Sahara occidental, le conflit entre le nouveau président élu algérien. Abdelmadjid Tebboune et le roi du Maroc, Mohamed VI. Parle-nous-en, tu as 20 minutes d'exposé, on compte sur toi.
Bien sûr. Alors, ce que je tenais à dire avant d'aborder justement des questions qui vont certainement troubler et peut-être même choquer les gens.
Absolument.
C'est que mon producteur, en fait, a pour idée la plupart du temps de dire de la merde. Donc, ce sujet ne me concerne absolument pas.
On embrasse Victor, si tu nous
écoutes. Bien entendu, Victor, si tu nous écoutes. Ne me concerne pas dans son actualité, même si je respecte évidemment ce conflit. Je n'ai absolument.
Je respecte ce conflit. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je n'ai absolument aucune notion de ce problème. Par contre, si vous voulez, on peut parler du Sahara, qui est un désert très sympathique avec beaucoup de sable à l'intérieur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le désert, c'est une immense étendue de sable. Alors le sable, bah ça ressemble. En fait, c'est fait. Je crois que c'est fait à partir de verre qu'on pile, et oui. Après ça devient comme du sable.
Je crois que c'est dans l'autre sens, hein.
Ah, c'est le sable qui devient du verre.
C'est le sable qui devient du verre, ouais.
Eh ben écoute, dans un univers parallèle, c'est le contraire. Donc j'ai envie de parler de cet univers-là.
Parlons-en.
Voilà. Et la plupart du temps, dans les univers parallèles, en tout cas dans celui que j'affectionne, les vagues, nous on a l'habitude qu'elles arrivent vers l'avant, là elles partent vers l'arrière. Si, vraiment, c'est une sorte de marée intégrale. C'est-à-dire qu'il faut toujours courir après l'eau pour pouvoir se baigner. Donc ce qui fait que tu allies les deux, la natation et le crossfit.
C'est formidable.
Oui, donc voilà.
C'est ce qui te donne ton corps d'athlète dans cet univers parallèle.
Exactement, voilà. J'aime bien faire des allers-retours. Donc, effectivement, vu mon alimentation et certaines boissons qui sont les miennes par moment, on se dit, mais comment c'est possible de garder un physique aussi filiforme, digne d'un phasme? Ce à quoi je réponds, bah, effectivement, c'est des voyages temporels. Donc voilà, je me balade un petit peu dans une dimension parallèle. Donc, si vous avez l'occasion d'aller, en tout cas, dans. Voilà, tout le monde est très très mince parce que, et musclé parce qu'on ne fait que courir.
Écoute, eh bien, j'irai alors à titre personnel, puisque je pense que j'ai des tas de choses à y faire.
Ah bah écoute, avec plaisir, et tu me raconteras.
Eh bien écoute, je te raconterai, on refera une émission d'ici une cinquantaine d'années, je pense que ça sera bon.
Avec plaisir.
Et on en reparle. Et en attendant, on va plutôt parler d'un sujet que tu connais peut-être un petit peu moins, ta vie.
Ouais.
Peut-être que tu connais un petit peu, mais moins que le Sahara occidental, je pense.
Je pense aussi, mais bon, allons-y.
Alors on va revenir un petit peu, un petit bout de ton enfance, que t'as passé chez tes grands-parents, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens des premiers sketchs que tu as vus ou que tu as entendus quand tu étais enfant?
Oui, un souvenir là immédiat, je pense qu'il y a du Coluche forcément.
Ouais.
Télé et cassette, parce qu'à l'époque on avait des cassettes, pour ceux qui plein qui savent pas ce que c'est,
des VHS. Parle-t-il.
Non, même pas des Walkman avec des cassettes audio.
Des cassettes audio.
Oui, un objet rectangulaire qui ferait
ça
paniquer
un peu, ça, hein.
Beaucoup de personnes de 15 ans en disant quel est ce rectangle très étrange.
T'as connu toi Mathilde les cassettes audio?
Non, j'ai pas connu, mais je pense que j'étais pas loin de le connaître non plus. C'était en 90, c'était quand?
Ah oui, il y avait du 90 encore. Ouais. Je pense que les cassettes audio, ça a dû s'arrêter fin 90.
Pas 90, le CD a dû émerger, ouais.
Ouais, je pense.
Je pense que c'est un truc.
Oh, même avant,
j'étais pas loin.
Ouais. Non, le CD, c'est bien avant. Moi, je sais que mon premier CD, j'en ai le souvenir, c'était. Je devais être en seconde ou en première. C'était, ouais, dans les mi-90. Et c'était deux CD de Cure, je me souviens très bien. Donc, ouais, bien avant.
Est-ce que tu te souviens, alors t'en parles dans le podcast Inspiration Créative, où tu exprimes un peu, tu reviens un petit peu sur ton parcours aussi, des malheurs de Muller?
Oui! Enfin, je m'en souviens, je m'en suis souvenu à l'époque. Là, tu vois, tu m'as ramené encore. C'était un vinyle. Alors, je sais pas qui avait acheté ça, ma mère, mes grands-parents, j'en sais rien. Mais c'était là. Et à un moment, j'étais là, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était. Et c'est vieux, hein. C'était déjà vieux à l'époque. Je pense que c'était un truc un peu 70s.
1969.
Ah bah, tu vois, j'étais pas loin. Très bonne année. et ouais, c'était. En fait, c'était de la caméra cachée. C'était un mec qui faisait des caméras cachées, comme peut faire, pour ceux qui connaissent un peu plus dans les contemporains, Jean-Yves Lafesse ou des mecs comme ça, quoi. Ou Rémi Gaillard. Ouais. Sauf que là, voilà, c'était un peu plus urbain. Donc, c'était un peu à l'époque, c'était des petites blagues et tout. Mais j'étais petit déjà, j'étais là, ah, c'est marrant. Donc, on peut faire de la musique, parce que je pensais que c'était de la musique quand j'étais très petit. Mais en fait, avec des blagues, c'est étrange.
Alors, on écoute un extrait.
Attends, là, trop bien.
Et puis, il y a trois lignes là que ça ne vous concerne pas, vous, pour ainsi dire.
Non, c'est-à-dire que si, en un sens,
oui,
si.
Oui, les premières lignes, là.
Oui.
Mais après les autres qui
suivent. Non, c'est pas une lettre pour moi.
Ah, ne vous effrayez pas pour ça, allez. C'est sûrement une blague, ça.
Oui.
Alors, je vais pas te mentir, ça a été une galère pour trouver un extrait qui était marrant.
Mais c'est dingue. Et il est pas super débarrassé, en plus. Mais... Mais ouais, non, c'est un humour inhérent à l'époque. Mais non, mais c'est marrant de réentendre la voix du gars. Ça m'a ramené vraiment à les petites briques de lait, quoi.
Ouais.
C'est rigolo. C'est rigolo.
1969, dans une émission de Radio France Inter qui s'appelait L'Oreille en coin.
D'accord.
Pour l'anecdote.
Mais je sais vraiment pas comment ce vinyle est arrivé là-bas, quoi. C'est ça qui est marrant.
Et on a réussi à le retrouver. C'est incroyable, hein. T'as vu? On a envoyé des stagiaires.
Très bon travail.
Caves. Merci.
Franchement.
Merci à toi.
Bien vu de ta part.
Et donc ensuite, au lycée, Richard Prior.
Ouais. Prior, que je découvre par le biais du père d'un pote qui bossait à l'international et qui un jour est revenu des États-Unis avec une VHS de Richard Prior, immense nom du stand-up outre-Atlantique,
oui.
Ce que je ne sais pas du tout à l'époque, voilà, qui a été et qui est toujours une référence totale là-bas dans les anciens, on va dire dans les grands rois, comme j'aime les appeler. Et ouais, j'ai pété les plombs parce que je voyais quelqu'un en fait qui parlait sale allumé à des gens. Et c'était pas un sketch avec un personnage noir lumière, un autre sketch avec un personnage, c'était tout du long il leur parlait, quoi. Il leur racontait des trucs,
ouais.
Et en même temps il faisait des moments de jeu, et j'ai été fasciné par cette forme d'expression scénique, et je me suis dit j'aimerais vraiment faire ça, et j'ai fait mes premières auditions à 19 ans, bon c'était pas du tout démocratisé, donc c'était compliqué d'en faire régulièrement, et puis bah voilà, entre temps j'ai suivi une école de formation théâtral classique, ouais. J'ai fait plein de choses. Voilà, quoi.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Richard Prior, on a un petit extrait.
Génial.
Rassurez-vous, si vous ne comprenez rien, c'est normal, moi j'ai rien compris en écoutant, mais ce qui compte, c'est le jeu, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère.
You know, everybody know one nigga that drink and every weekend get his ass whooped. He never wins a fight, but he always wants to fight. You know what I mean? Nice guy during the week.
Hi, how are you?
Weekend. Motherfucker! Get out of my face!
Dedo, une réaction?
Oui, et puis il a une voix incroyable, il y a tout qui va, quoi. Là, pour ceux qui n'ont pas compris, il parle de gens qui, dans la semaine, sont toujours détendus, et le week-end, dès qu'ils boivent deux coups, ils pètent les plombs, ça devient des autres personnes, quoi. Et c'est de l'observation assez basique sur ça, mais il a parlé de grands sujets sociétaux. Et ça a été un des premiers à casser un petit peu le modèle bien pensant de la comédie aux États-Unis, même ouais. Si Lenny Bruce l'avait fait avant lui. Lui, à la base, il était vraiment fasciné par Bill Cosby, qui, bien avant de violer des femmes, faisait du stand-up. Il a continué aussi, d'ailleurs. Et le procès est en cours. Hein,
du stand-up ou à violer des femmes?
Ah, les deux, vraiment, parce que c'est pas le...
On rigole, mais c'est horrible.
C'est pas la personne la plus sympa du monde. Mais il était doué artistiquement. Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas toutes ces affaires. Et il l'avait en modèle de comédie. Et malgré lui, du coup, il reprenait un peu le phrasé de Cosby. C'était une sorte de Cosby sur scène avec quelque chose, un matériel très clean, très propre, rien de qui dépasse. Et un jour, il est à Las Vegas et il a eu une révélation en parlant. Pendant qu'il jouait, il était là et il dit « Mais c'est pas moi, tout ça ». Et il s'est barré de scène, il n'est plus jamais revenu à Vegas, et il a décidé de parler de lui, vraiment de lui, d'être vrai, d'être sincère, de plus se cacher derrière quelque chose, et de parler directement aux gens. Et c'est ça qui l'a fait devenir la légende qu'il a été, je pense.
Et du coup, toi, tu as voulu un peu t'inspirer de ça et du coup développer cette idée-là. Mais en France, peut-être au début, c'était pas forcément très accepté.
Non, au-delà de l'acceptation, c'est surtout que le stand-up, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Même si, pour moi, des proches en faisaient quelque part, Guy Bedos en faisait, même Coluche par moment. Sauf que la forme en tant que telle, déjà, le nom n'était pas usité parce que c'était anglais et qu'on voulait certainement pas en parler. Mais il n'y avait pas de démocratisation de ça. C'était vraiment du sketch. Donc, au début, tu arrives avec du stand-up et les gens ils disent ouais, hein, tu veux pas faire un sketch
classique,
une institutrice. Et j'ai dit non, parce que c'est ça que je veux faire, sinon j'aurais fait l'institutrice, madame. Et donc, en attendant, voilà, tu joues dans des pièces de théâtre. T'attends de faire des auditions, d'espérer pouvoir en faire plus régulièrement. Et puis après, il y a le Comedy Club, émission à laquelle j'ai participé avec la toute première troupe, qui a démocratisé beaucoup plus le concept. Et maintenant, on a la chance de pouvoir jouer, en tout cas à Paris, trois fois par soir dans des scènes ouvertes, si on veut. C'est assez formidable pour ça.
C'est assez ouvert, il y a des nouveaux stand-up, il y a des nouvelles salles qui ont ouvertes.
Bien sûr, sur Les Soignons, on a ouvert une qui s'appelle le Barbès Comedy Club. Farid a ouvert Madame Sarfati. Il y a Kev Adams qui va en ouvrir un aussi à Paris. Vraiment, il y a de plus en plus de lieux pour pouvoir jouer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de voir du stand-up. Et je pense que c'est agréable de se dire que plus ça va, plus les gens ont une image moins galvaudée du stand-up. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, ça a l'air communautaire, oui, c'est tout le temps la même chose. C'est faux. Il y a autant de stand-up différents que de personnes différentes qui le pratiquent. Donc, il suffit juste de voir les bons spectacles pour se dire que le stand-up, c'est vraiment un art très, très pointilleux et particulier. Moi, je viens du théâtre classique, j'ai fait des tas de choses en expression scénique. Il n'y a rien de plus dur que le stand-up. Rien. Parce qu'on est sans artifice, on parle directement aux gens, il n'y a pas de quatrième mur, on n'est jamais en sécurité. Dans une pièce de théâtre, voilà, les gens sont là, les gens sont pas là, la situation sera la même, on joue. Là, on peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans la salle, on est tributaire des réactions. C'est très vertigineux, mais c'est la meilleure chose au monde.
Alors, au Jamel Comedy Club, tu as rencontré Yacine Bellous, avec qui tu as partagé ta chambre, je crois.
Ouais, de manière tout à fait amicale.
Oui, comme avec les prostituées, on le sait bien. Je plaisante.
Les raccourcis encore.
Évidemment. Que tu as côtoyé sur plein de projets. Et le Jamel Comedy Club t'a aussi permis de te diversifier, notamment en racontant l'histoire avec des chaussettes.
L'histoire racontée par les chaussettes. C'est très marrant.
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère.
Hé, hey, Judas!
Oh, Jésus, ça va?
Ça va. Je suis un peu crevé, mais ça va.
Ah oui, normalement, c'est pas aujourd'hui.
Hein?
Non, laisse tomber, je suis pas un pompe. Pourquoi tu es fatigué?
Oh non, rien de spécial. En fait, j'ai joué au poker avec les apôtres toute la nuit.
Ah, cool, ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé, ouais. Je les ai crucifiés.
Ah, ouais. Méfie-toi quand même, hein, parce que la chance, elle tourne.
Jésus, Judas, qu'on vient d'entendre.
Ouais.
Une de tes premières créations? En termes de sur ce format-là, l'histoire
oui,
avec
oui, oui. En tout cas, en termes de programme court, effectivement, c'est un programme qu'on a créé avec Yacine en 2007, très exactement. Et qu'on a financé nous-mêmes, qu'on a autofinancé parce que il fallait le faire exister, on a envie de le faire exister, donc on a pris un peu de la thune qu'on avait de côté, on a créé 6 épisodes qui ont été des pilotes en fait quelque part. Et voilà, donc l'histoire racontée par les chaussettes, c'est un programme court qui, par le prisme d'un petit théâtre de marionnettes, fait qu'on parle de soit de grandes créations historiques, soit d'inventions un peu étranges. Donc ça va de l'invention de la télécommande à Jeanne d'Arc, le quatrième voyage sur la Lune ou les Pokémon. C'est très large dans ce qu'on donne. Et c'est un programme dont on a fêté les 10 ans en 2017 à travers un financement participatif pour refaire des épisodes parce que tout le monde nous disait « Pourquoi vous en faites pas ? Refaites des épisodes. »
Vous en faites à un rythme très aléatoire. Hein,
tout à fait. On le fait quand on nous donne de l'argent, déjà, au bout d'un moment, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Golden Moustache nous avait rappelé en 2012, justement pour qu'on, au début de la chaîne, Golden Moustache, pour ceux qui ne savent pas, un portail humoristique sur le web qui a développé des vidéos et plein de choses. Et donc, on était un des programmes phares du début de la chaîne. Donc, on a fait 15 épisodes avec eux. Et puis, entre-temps, pour les 10 ans, on a refait 10 épisodes. Et l'année dernière, encore 5 épisodes. Donc, on a une trentaine d'épisodes maintenant. On est content parce que les gens ont l'air vraiment d'aimer ce programme. Ouais. Et nous, on l'adore aussi. C'est très absurde, c'est très anglo-saxon. C'est quelque chose qui nous ressemble énormément avec Yacine. Parce qu'on adore les Monty Python, parce qu'on adore le surréalisme, et que on a une vraie combinaison incroyable avec Yacine Bellous, qui est le mec le plus marrant du monde. C'est que je suis une entité très à part quand je suis seul, lui de la même manière, et quand on bosse à deux, on devient un troisième truc, qui encore autre chose. Donc c'est très agréable de pouvoir collaborer là-dessus et de
un peu
créer
comme deux parents qui font un enfant.
Exactement, sauf qu'on est les deux parents et l'enfant à la fois.
C'est beau.
Un peu comme certaines familles étranges dans certaines contrées.
Dans des univers parallèles.
Par exemple.
Alors, t'as fait aussi de la radio, t'as créé un jeu qui est assez, un petit peu assez absurde. T'as tourné dans une série YouTube, Throne of Frogs. Ouais. On a l'impression que tu fais... Et t'as fait une BD aussi.
Ouais.
T'as fait plein de choses. Qu'est-ce que tu kiffes le plus?
Je dirais tout quand même, mais...
Il faut choisir.
La scène, alors. Vraiment le stand-up, je pense, même si les autres trucs, voilà, me passionne totalement. J'adore la BD. J'ai eu la chance de pouvoir sortir cette première BD chez Delcourt.
White Spirit.
Exactement, qui s'appelle White Spirit, dans la collection de David Mourier. Normalement, la deuxième devrait sortir l'année prochaine si tout se passe comme prévu. Mais la radio, ça a été un kiff incroyable pendant un an sur le Move. Créer des programmes courts, être dans la fiction, c'est génial. J'ai pu participer à l'écriture d'un scénario de long métrage il n'y a pas longtemps. C'est une super expérience aussi. Mais c'est vrai que la scène, être en contact direct avec les gens et avoir cette réaction instantanée de communication et de rire quand ça arrive et que ça doit arriver, ça a un pouvoir incroyable, quoi.
Ouais, et ça, on sent que c'est vraiment ce que tu kiffes.
Ouais. C'est vraiment Eros et Thanatos, quoi. C'est amour-haine. Il y a des moments où tu te dis, c'est dur, parce que tu crées, donc t'es pris à partie par des doutes qui sont inhérents à la création. Tu sais plus, est-ce que c'est marrant, est-ce que c'est bien, est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir. Mais une fois que t'es sur scène, t'oublies tout, quoi. T'oublies tout et ça vaut le coup de la bagarre. Ça vaut vraiment le coup de la bagarre.
Yes. Alors, il paraît que tu adores le Japon. Faut juste répondre par oui ou non parce qu'on est à la bourre.
Ok, oui.
Alors, ça tombe bien que tu adores le Japon parce que Mathilde nous emmène en Chine pour parler d'intelligence artificielle avec son instant narration.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je vous demande encore quelques minutes de votre temps pour mon instant narration. Nous allons passer ensemble quelques frontières pour nous retrouver en Chine, ce pays asiatique aux traits culturels uniques. Je vous demande de suivre l'histoire de ce jeune écolier qui va être soumis à l'intelligence artificielle durant sa journée d'études pour tester sa concentration. Aujourd'hui, alors que je viens à peine de m'asseoir sur ma chaise, on nous annonce que nous allons tester un casque avec des capteurs qu'ils appellent bandeaux connectés. L'enseignant attend que l'on mette notre serre-tête pour nous expliquer son utilité. On doit le placer sur notre front. Cela excite un petit peu certains de mes camarades, mais moi je ne suis pas très rassurée. Je sens le froid des capteurs sur mon front et derrière mes oreilles. J'attends patiemment que mes autres camarades l'ajustent. L'enseignante prend la parole et nous explique que ce que nous avons sur la tête, c'est un outil technologique qui permet de mesurer notre concentration et que cela a comme objectif d'augmenter nos résultats et que la classe soit plus attentive en général. Elle nous explique ensuite le programme de l'heure. Elle sera divisée en deux. La première partie sera consacrée à simplement effectuer des exercices avec concentration pour nous approprier l'objet et que nous nous habituions. La deuxième partie de l'heure sera consacré à l'étude de notre concentration par rapport aux autres. Je sentais mon cœur battre un peu plus fort. J'étais pas très rassurée face à ce qui m'attendait. Mais je me mis au travail, pensant que cela allait passer. Pendant quelques instants, je pensais exclusivement à mon serre-tête. Puis je me concentrais rapidement sur mes exercices. La demi-heure passa à grande vitesse et la deuxième partie de l'heure pouvait commencer. L'enseignante se mit à dérouler contre le mur la toile sur laquelle on projeta un écran, avec diffusé en bas, dessiné à la manière de dessins animés. Je plissai alors les yeux, ne comprenant pas la tournure du cours. L'enseignante explique alors qu'il y allait avoir un concours de celui qui serait le plus concentré. Un silence se fit dans la classe, mais, immédiatement, l'enseignante donna le top départ. Un peu déboussolé, il me fallut quelques instants pour me reconcentrer. Je décidai alors de faire comme tout à l'heure et de rester dans mon monde. Au bout de 5 minutes, l'enseignante stoppa l'expérience. Je levai alors la tête. Je constatai, avec fierté, que j'étais dans les 5 premiers. Mais il y avait encore quelques fusées qui étaient en envol, mais derrière moi. La dernière fusée, c'était un ami que je connaissais depuis très longtemps. Je tournai alors la tête vers lui. Il avait un regard dépité. L'enseignante, en guise de punition, l'envoyait au fond de la salle. Le reste de la journée de cours se déroulait normalement. Mais nos parents apprendront rapidement que cette expérience ferait à présent sûrement partie de nos quotidiens. Les médias se sont intéressés à ce concept d'éducation intelligente et ont pu relever des points autant négatifs que positifs. Les produits ont été conçus sur la base de la technologie de l'électroencéphalogramme dans le but d'améliorer la concentration des personnes grâce à l'auto-formation. En outre, ils peuvent aider les enseignants à améliorer leur pédagogie en classe afin de dispenser un meilleur enseignement aux élèves. Les élèves qui sont d'ailleurs plus attentifs. En raison d'un contexte très concurrentiel, les parents n'hésitent pas à essayer tout ce qui pourrait potentiellement aider leurs enfants. Mais les élèves ont l'impression d'être surveillés. Cela est avantageux puisqu'il s'applique davantage en cours. Mais il n'y a pas que ce bandeau connecté qui les surveille, il y a aussi des caméras connectées qui surveillent leurs mouvements, qui détectent qu'ils sont en train de lire ou utiliser leur téléphone. Cependant, il y a un manque de preuves scientifiques pour prouver l'efficacité totale de ce bandeau connecté.
Merci Mathilde pour ton instant narration. Dedo, une réaction ?
C'était bien. C'est intéressant.
Okay.
Merci Dedo.
C'est bien.
T'es quel genre d'enfant toi à l'école ?
J'étais à l'école, école primaire ou au fur et à mesure ?
École primaire.
Primaire, j'étais plutôt calme, plutôt réservé. Puis au fur et à mesure de l'avancée de l'éducation, beaucoup moins. Ouais, un peu plus fouteur de bordel, mais toujours sympa. Toujours dans la bienséance, tu vois, on faisait chier les profs, mais c'était jamais chiant, c'était surtout verbal, mais verbal respectueux. Mais il y avait des vannes, il y avait des
petites. Ça veut dire quoi être verbal respectueux?
Bah, avec pas, les profs, pas être dans les insultes, pas être dans foutre la merde en voulant déstabiliser un prof, mais plus un truc qui se passe dans la classe, un truc que va dire le prof, rebondir dessus et faire une vanne autour de ça. Du coup, ça crée une sympathie qui est différente.
D'accord, alors l'émission va toucher à sa fin parce qu'on est déjà à la bourre. Et oui, le temps passe vite, alors on va se quitter avec une marque d'espoir. On va écouter les Monty Python.
Ah.
Tu reconnais la chanson des dos ?
Always look at the bright side.
Oh là là, the bright side of life.
Bien sûr.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à toi, Dedo. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
C'était très cool.
Super. Merci à toi, Mathilde.
Très enthousiaste.
Mais oui.
De rien.
Oh là là, lèche-pompe. Merci, Mathilde, pour l'instant narration, pour être à la technique chaque semaine. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission sur News FM, évidemment. La soirée continue avec plein de belles choses, sûrement de la musique. On vous donne rendez-vous très vite. Bisous bisous, Dedo, si tu veux dire un petit au revoir.
Je siffle, je peux pas tout faire. Au revoir, merci News FM, merci Grenoble, merci tous les gens qui sont là, derrière.
Merci à vous, à les auditeurs, tout simplement. Et on vous donne rendez-vous très vite. Bonne soirée à vous, au revoir.
Salut.